Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, il est 19h30 à Yaoundé et à Londres, 15h30 ici à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, à Yaoundé, les évêques catholiques ont dénoncé l'assassinat odieux et insupportable de Monseigneur Bala.
Nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné.
Fusillade aux États-Unis, 5 blessés, dont le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, quitte et, à l'heure où on se parle, dans un état critique. À Londres, l'incendie d'une tour de logements sociaux a fait au moins 12 morts. Plus de 78 personnes sont hospitalisées, dont 18 dans un état critique. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Cameroun, l'Église catholique a annoncé l'assassinat brutal de Monseigneur Jean-Benoît Bala, évêque de Bafia, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Samuel Kléda, a donné un point de presse ce matin à Yaoundé pour apporter plus de précisions sur la mort de l'évêque. Le point avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Knapp.
Notre Père. Cieux.
Dans une atmosphère de recueillement, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, son secrétaire général annonce à la presse l'assassinat de l'évêque de Bafia, retrouvé le 2 juin 2017 dans les eaux du fleuve Sanaga.
Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné.
La thèse de l'assassinat est vite renchérie par le président de la Conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kléda.
Ce n'est pas une personne qui s'est noyée. L'évêque ne s'est pas suicidé.
La déclaration des évêques exige, entre autres, que l'État identifie nommément les coupables et les livre à la justice.
Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons intervenir d'une autre manière.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
En RDC, bilan de l'attaque des Mai Mai et Charles à Nyakakoma, au Nord Kivu, des témoignages de population et une source proche du CICR contactée par VOA Afrique ce soir signalent au moins 13 morts, dont 11 militaires de la force navale et 2 civils. Et on a également rapporté des cas de pillage effectués par l'armée congolaise. Au Burundi, Martin Nivyabandi, le ministre des Droits à la personne, a averti lors d'une conférence de presse qu'il s'attendait à ce que l'ONU dresse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme dans son pays lors de leur prochaine session à Genève. Lutte contre la corruption au Nigeria, le président du Sénat a été acquitté, ce qui met fin aux poursuites contre le troisième personnage de l'État. En Côte d'Ivoire, des milliers de pièces électriques contrefaites ont été saisies aujourd'hui lors d'une opération coordonnée dans plusieurs points de la capitale économique, Abidjan. Les gendarmes sont notamment intervenus à Trècheville et à Djamé, où se trouve un des plus grands marchés de la ville. Le président ivoirien Alassane Ouattara est en déplacement à Strasbourg. Dans un discours devant le Parlement européen, il a milité pour plus d'éducation des jeunes Africains qui, tentés par l'aventure européenne, dit-il, finissent par être victime de réseaux mafieux et d'organisations terroristes. C'est la responsabilité des pays africains de faire un travail pédagogique, a-t-il ajouté. Au Maroc, 25 manifestants et militants présumés du mouvement de contestation populaire qui secoue le nord du pays ont été condamnés à 18 mois de prison ferme à l'issue de leur procès ce soir à Al-Hoceima. La procureure de la Cour pénale internationale a demandé l'arrestation immédiate de Saif al-Islam, le fils de l'ex-leader libyen Muammar Kadhafi. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 est toujours en vigueur, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué. Ce nouvel attentat en Somalie, un kamikaze a fait exploser ce soir un véhicule contre un restaurant fréquenté de Mogadiscio. Aucun bilan de victimes n'était disponible dans l'immédiat, mais des témoins ont dit avoir entendu des tirs après l'explosion. Début aujourd'hui du procès d'un éminent défenseur des droits de l'homme au Soudan, Moudaoui Ibrahim Adan, est accusé d'espionnage au profit de pays étrangers en contrepartie d'argent. Amnesty réclame sa libération immédiate, Jacques Aristide.
Le procès s'est ouvert en présence de diplomates occidentaux et de militants soudanais pour Amnesty l'arrestation et la détention de Moudaoui Ibrahim Adam et de son collègue Hafiz Idriss Aldoma constitue une erreur judiciaire. L'ONG ajoute qu'ils ont été sans cesse harcelés par les autorités soudanaises. Professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, Moudaoui, 58 ans, a été interpellé en décembre dernier lors d'une des manifestations dans la capitale contre la réduction des subventions sur les prix des carburants. D'après Amnesty, c'était l'occasion pour les autorités de mener une campagne de répression visant des militants et des responsables de l'opposition. Outre l'inculpation d'espionnage, Moudaoui est accusé d'avoir écrit que les forces de sécurité avaient fait usage d'armes chimiques. Il risque la peine de mort. La prochaine audience est prévue le 20 juillet prochain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Ici, aux États-Unis, un élu républicain du Congrès américain a été blessé, ainsi que plusieurs personnes, par un tireur armé qui a finalement succombé à ses blessures. La fusillade a eu lieu ce matin, tout près de Washington. Le point avec Solange Niamoulissa.
La fusillade a eu lieu à Alexandria en Virginie. Le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, a été touché à l'ange. 5 personnes ont été blessées, dont 2 officiers de la police du Capitole.
Congressman Scalise is a friend and a very good friend. He's a patriot.
Le président Donald Trump a condamné cette attaque brutale et s'est dit profondément attristé, d'autant qu'il connaît personnellement Steve Scalise. Mo Brooks, un élu qui s'est trouvé sur place, a dit avoir vu un homme armé d'un fusil semi-automatique qui a tiré dans toutes les directions. Les officiers de sécurité ont riposté, touchant l'assaillant qui finira par succomber de ses blessures. L'agresseur James Hankinson, 66 ans, est originaire de l'Illinois. Ses motivations ne sont pas connues. Les élus républicains s'entraînaient en vue d'un match de baseball contre les démocrates pour aider les plus démunis, une tradition établie depuis 1909.
Le Parlement européen a levé l'immunité de 2 élus du Front National, dont Jean-Marie Le Pen, et ce à la demande de la justice française qui souhaitait poursuivre. Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National dirigé par sa fille Marine, est mis en cause pour avoir déclaré en août 2009 que, je le cite, 90% des faits divers ont à leur origine soit un immigré, soit une personne d'origine immigrée. Fermez les guillemets. Il est visé donc par une information judiciaire ouverte pour diffamation publique à caractère raciste. La commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a jugé excessives les frappes aériennes de la coalition à Raqqa, où les forces anti-djihadistes se heurtent à la résistance acharnée du groupe État islamique. Les enquêteurs qui n'ont pas accès à la Syrie ont décompté 300 civils tués par les frappes aériennes de la coalition depuis le 1er mars dans l'ensemble de la province de Raqqa. Au Liban, les partis politiques rivaux sont tombés d'accord aujourd'hui sur une nouvelle loi électorale après des mois de discussions ardues, ouvrant la voie à la tenue de législatives pour la première fois depuis 9 ans. Après l'élection d'un président de la République en octobre dernier, poste qui était resté vacant pendant 2 ans et demi, et la formation donc de son gouvernement 2 mois plus tard, cet accord met un terme à un blocage qui dure depuis des années dans le pays divisé. Et puis en Europe, à Londres, la nuit dernière, au moins 12 personnes ont trouvé la mort et plus de 78 blessés dans un incendie qui a ravagé un immeuble de logements sociaux. Les précisions d'Ekia Badou.
Selon un commandant de la police, le bilan risque de s'alourdir et les recherches vont durer plusieurs jours. En 29 années de carrière, je n'ai jamais rien vu de cette ampleur, a également déclaré Danny Cotton, la chef des sapeurs-pompiers de Londres. Ses services ont été alertés peu avant 1h du matin dans le quartier de Kensington, à l'ouest de Londres. En 6 minutes, les pompiers étaient sur place pour tenter de venir à bout des flammes qui ont calciné l'immeuble de 24 étages. 400 pompiers et 200 soldats ont été mobilisés. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. un collectif de résidents pointait depuis plusieurs années les carences du système d'alarme et de protection en cas d'incendie. Une opération de rénovation d'un montant de 8,6 millions de livres s'est achevée en mai 2016. L'entreprise en charge des travaux assure avoir respecté toutes les normes en matière d'incendie, de sécurité et de construction.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Le Sénégal obtient un nouveau prêt de 6,6 millions d'euros pour l'extension de la centrale au fioul de Toben. L'Emerging Africa Infrastructure Fund a octroyé cette somme à Melek Power Gen, qui gère la centrale mise en service en 2016. Ce prêt d'une durée de 13 ans doit permettre d'ajouter un nouveau groupe de 19 MW à celui de 96 MW et qui fera passer la capacité à 115 MW. Alimentée au fioul lourd, la centrale de Toben pourra être convertie au gaz naturel une fois que cette ressource sera disponible depuis les gisements découverts au Sénégal. La Guinée veut lancer son premier cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières. C'est ce que rapporte l'agence Ecofin citant l'Office national du pétrole. D'après Offshore Energy Today, le cycle sera ouvert pendant 6 mois à partir d'octobre 2017 et les résultats seront disponibles courant octobre 2018. République démocratique du Congo, les deux consortiums qui demeurent dans la course pour la construction de la centrale hydroélectrique Dinga 3 sont invités à soumettre une offre unique et conjointe de développement de l'infrastructure. Cette annonce a été faite par l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Dinga. Le barrage Dinga 3 aurait une capacité électrique d'environ 4800 MW. Sa production est destinée en grande partie à l'exportation vers l'Afrique australe, à l'approvisionnement des populations de la région et de l'industrie minière du pays.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors bien sûr, nous commençons avec le foot. Le Costa Rica se rapproche de la Coupe du Monde 2018.
Profitant du nul des États-Unis face au Mexique dimanche, le Costa Rica a conforté la nuit dernière sa deuxième place des qualifications de la zone CONCACAF en battant Trinité et Tobago 2-1. Avec 11 points en 6 journées, le Costa Rica est deuxième de son groupe derrière le Mexique et compte 3 points d'avance sur les États-Unis. Et pour le moment, le Panama occupe la place des barragistes.
Football, mais côté justice cette fois, et Ronaldo dit avoir la conscience tranquille.
Oui, Cristiano Ronaldo, accusé d'évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, a affirmé avoir la conscience tranquille face au risque de poursuite pour fraude qui pèse contre lui en Espagne. Avant de s'envoler vers la Russie pour disputer la Coupe de Confédération avec l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s'étaient entraînés près de Lisbonne. Real Madrid lui a apporté son soutien ce mercredi, se disant convaincu de la totale innocence du Portugais.
N'y a-t-il pas assez d'entraîneurs noirs dans le foot anglais?
La seule femme noire au sein de la direction de la Fédération anglaise de football, Heather Rabat, s'est dite frustrée par ce manque de diversité. La saison prochaine, seul un entraîneur noir se retrouvera sur le banc d'une équipe de Premier League, le championnat le plus cher et le plus médiatisé dans le monde. Il s'agit de Chris Hutton, l'entraîneur de Brighton, qui avait lui-même en janvier déploré le manque de diversité parmi ses confrères et évoqué un véritable souci.
On reste en Angleterre, où le calendrier de la Premier League a été dévoilé.
Effectivement, la course à la succession de Chelsea commence le week-end des 12 et 13 août. Le seul duel notable de la journée d'ouverture va opposer à l'Emirates Stadium Arsenal à Leicester, champion 2016. Chelsea, champion de la saison écoulée, va commencer la défense de son titre par la réception à Stamford Bridge de Burnley. Le premier choc va avoir lieu lors de la deuxième journée. Chelsea chez son dauphin Tottenham pour un derby londonien délocalisé à Wembley en raison de la construction du nouveau stade des Spurs.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Il s'agit surtout de personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Une association de femmes est à la pointe de ce combat. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Je suis dans la souffrance. Mon mari est détenu de manière injuste dans une prison et on vient me parler de réconciliation.
Simone Daté est la présidente du collectif des femmes des détenus de la crise post-électorale, le COFED, une organisation qui lutte pour la libération de tous les détenus politiques. Dans le café où elle nous reçoit, Simone Daté nous raconte le calvaire des membres de l'association qu'elle dirige.
On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa, ça c'est compliqué, c'est vraiment triste.
Simone et les autres membres de son organisation tentent depuis des mois de rallier le maximum de soutien à leur cause.
Nous avons croisé le noce apostolique dans le temps. Nous avons croisé le cardinal d'Abidjan, les chefs religieux, coutumiers, tout ça. Parce que nous disons que c'est tous ceux-là qui peuvent être nos médiateurs auprès des autorités. Nous avons même fait des sittings, nous avons fait des grèves de faim. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, nos parents qui sont détenus.
Antoinette Meo fait partie des prisonniers pour qui le collectif s'est mobilisé. Âgée de 61 ans et mère de 6 enfants, cette dame avait été arrêtée en août 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 9 mois de détention sans jugement, elle a été libérée en mai dernier. Pour elle, la libération de tous les détenus politiques sera un signal fort en vue de la réconciliation nationale.
Nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, on ne doit pas avoir des prisonniers politiques qui soient tous libérés pour que nous puissions passer à la réconciliation, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire.
Il y a quelques jours, Hubert Houlaï, un haut cadre du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, bénéficiait de la liberté provisoire après 2 années de détention. Selon le collectif des femmes des détenus, quelques 200 personnes, civiles et militaires, sont toujours gardées dans les prisons et sans jugement. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mentalité? À quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
En Guinée, la prolifération des eaux minérales préoccupe les services en charge du secteur de l'eau à la consommation. Certaines eaux sont commercialisées sans aucune autorisation. La grande offre de sachets d'eau commence à faire douter certains à Conakry, comme nous le raconte notre correspondant Zakaria Camara.
À l'Office national de contrôle de qualité, on est à la recherche d'équipements performants et de moyens logistiques. Ici, le nombre croissant des unités de production d'eau en sachet s'explique.
Ce que nous voulons, un papier d'une autorité qui autorise. On ne peut pas dire, ah, il ne doit pas. Mais s'il y avait un décret pour faire habiliter un seul département pour délivrer ces papiers, soi-disant l'autorisation de mise en consommation, il n'y a pas de problème pour ça.
Zakaria Touré est le directeur général de l'Office national de contrôle de qualité. Selon lui, toutes les analyses ne donnent pas le même résultat. Certaines eaux sont impropres à la consommation.
Tous les échantillons d'eau analysés par nous, si ce n'est pas bon, on ferme la production et les intéressés viennent demander nos expériences pour qu'on vienne les aider à améliorer la qualité de leur eau.
Des sachets d'eau, il y en a dans toutes les boutiques à Conakry et des vendeurs à la sauvette dans les rues. Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre d'unités de production dans la capitale. Plus de la moitié des unités de production dont les sachets sont commercialisés évoluent dans la clandestinité. Ibrahim Diané, directeur général du Fonds de l'hydraulique.
Pour ce qui concerne Conakry et périphérie, effectivement, avec nos recensements de routine, nous avons pu recenser une cinquantaine de sociétés d'eau minérale. Parmi ce lot, il n'y a qu'une vingtaine qui sont repérées, c'est-à-dire qui sont localisées, qu'on a identifiées et qu'on sait où se trouve leur siège, où se trouve leur unité de production.
Dans la capitale, certains Guinéens commencent à se poser des questions sur ces eaux en sachet.
Il y a un autre voisin là-bas, il avait fui une forêt chez lui. Actuellement, il emballe de l'eau là-bas et il revend dans la capitale comme si c'est l'eau minérale. On ne sait pas s'il est à règle ou pas. On ne sait pas si c'est minéral ou pas.
Pour vendre plus les sachets d'eau, de nombreuses unités de production ont choisi les noms de quartiers ou celui des villes. Une démarche marketing qui vise à intéresser plus d'habitants de ces localités. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Contre la corruption au Burkina Faso semble avoir fait des progrès ces dernières années. Mais les ONG estiment que les dossiers ne connaissent pas vraiment un aboutissement devant la justice, en raison notamment des lenteurs. Pour Claude Veta, secrétaire général du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption, il y a un véritable manque de volonté politique de la part du gouvernement. Claude Veta est interrogé par Bagassikoura.
Nous estimons que la volonté politique n'est pas encore affirmée. C'est une volonté politique qui manque de force, de fougue. Et donc, ça peut être lié aussi au fait que ce gouvernement-là a des liens avec l'ancien gouvernement. Et donc, c'est pas aussi évident de pouvoir effectivement se détacher de ce qui s'est passé au cours des 27 années de règne de Blaise Compaoré et peut-être aussi, peut-être de l'année qui vient de s'écouler où on sent encore qu'il y a quand même des problèmes.
Alors récemment, le professeur Luc Ibriga, le contrôleur général d'État, dénonçait la lenteur au niveau de la justice.
Oui, je pense que il y a aussi que la justice prennent effectivement les dossiers. Le procès Ligue a montré qu'ils avaient envoyé 86 dossiers donc, au niveau de la justice depuis que lui, il est à la tête de la SELC. Effectivement, ces dossiers-là, jusqu'à présent, ne sont pas jugés. Nous avons également le dossier emblématique de Diro, Ousmane Diro, qui a été l'ancien DG de la douane. Le jugement a été fait. Appel a été également fait, mais jusqu'à présent, on n'a pas le dénouement de cette affaire. Donc, il y a un certain nombre de choses, on a l'impression qu'on fait du surplace, et ça nous inquiète.
Et pourtant, on a fait récemment, sous la transition notamment, la réforme de la justice.
Voilà, on a fait la réforme de la justice, on a augmenté le salaire des magistrats, et donc toutes ces conditions qui sont là, normalement, devait permettre d'aller plus vite. Bon, évidemment, il y a encore des choses. Je sais que au niveau de la SELC, on demande effectivement qu'on lui donne plus de moyens pour les investigations. On demande qu'au niveau de la justice, il y ait des pôles qui puissent permettre de faire avancer les dossiers des crimes économiques.
Claude Veta, secrétaire général du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption au Burkina. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Le représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique centrale était hier mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À New York, François Lounsé Nifal a présenté son rapport sur les crises et les défis en Afrique centrale. Joint par Tatiana Mosso, il revient sur les différents dossiers de la Centrafrique au Congo avec la situation dans la région du Poul.
Nous avons rendu compte au conseil de nos exercices de bons offices que nous offrons dans la région, et notamment sur des régions comme le Congo, le Cameroun, également la situation de la sous-région dans le domaine sécuritaire lié à Boko Haram, à la LRA, la piraterie maritime, et aussi dans le cadre de la diplomatie préventive qui est au centre du programme du nouveau secrétaire général, ce que nous sommes en train de faire avec la communauté économique de l'Afrique centrale, l'organisme sous-régional, et qui devrait avoir un rôle plus actif à la prévention, à la résolution des conflits.
Quels sont les dossiers prioritaires pour vous aujourd'hui?
Il y a d'abord la République centrafricaine. Vous savez, les Nations Unies sont engagées très activement à la République centrafricaine. Donc, il y a un plan d'action qui a été élaboré par le secrétaire général. Et le bureau de représentants à la Bangui et moi-même, nous sommes chargés de la mise en œuvre de ce projet. Il y a aussi les problèmes liés à Boko Haram, surtout l'impact de Boko Haram sur les populations les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui, et de même que la piraterie maritime.
Autre sujet, le Congo-Brazzaville, tout le monde parle de ce qu'il se passe dans la région du Poul. Est-ce que ça a été évoqué aussi dans votre rapport?
Oui, nous l'avons discuté en close session d'ailleurs, et donc nous avons rendu compte des dernières démarches que nous avons effectuées à Brazzaville au sujet de la question du Poul, et le conseil a été rendu attentif à la situation qui se développe là. Et je pense que le problème, le grand problème là-bas, c'est les questions d'accès humanitaire et les questions nutritionnelles qui sont posées. Et nous avons donc rendu compte au conseil des démarches que nous avons entreprises dans ce sens.
Quelles sont les mesures qui pourront être mises en place pour endiguer les différentes problématiques que vous venez de soulever?
Écoutez, le conseil de sécurité reste attentif à toutes ces questions qui sont d'ordre sous-régional. Dans l'architecture de paix et de sécurité de la région, il est important donc que ces problèmes-là soient pris en compte. Il y a donc d'abord la question du bassin de la Tchad, qui est une question transfrontalière entre l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale, l'histoire de Boko Haram. Il y a aussi la question du Poul, où des efforts doivent être fournis par le gouvernement congolais afin de résoudre rapidement cette crise qui touche déjà des populations civiles avec les déplacés. Et il y a aussi les questions touchant à l'intégration régionale, qui est un facteur important. Car vous savez que dans l'Afrique aujourd'hui, il est évident que ce sont les régions qui règlent les problèmes politiques. Et donc l'Afrique centrale a un petit retard en matière de médiation et de règlement des conflits. Donc nous sommes là, nous sommes appelés à renforcer donc les capacités de la CEAC dans ce sens.
François Lounseni Fall, le représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique centrale.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comedy, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat, and this is the sounds of Africa. This music comes from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. I listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one man yele, ancient African music called yele. Senegalese music called yele, ancient African music called yele. Senegalese music called yele. When you hear the yele, you might say yele. Listen how the yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been there. Baba Ma.
Mama di waro. Ula biro. Como di bayo la mingo do yele.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Georges Léonard Sagno, à la console Tian Wong, au micro Clément Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet voaafrique.com et notre page Facebook bien sûr. Tout de suite, l'émission, notre émission historique, le RM Show, présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Here we know, this is
Yele, ancient African music called Yele, Senegalese music called Yele, ancient African music called Yele.